Comme à chaque mardi, on vous offre un coup de cœur d'auteur pour vous faire des suggestions de lecture au courant de l'été. Des suggestions qui sont bien appréciées de nos auditeurs parce que ce sont des auteurs qui nous les recommandent et des auteurs donc qui écrivent, qui lisent beaucoup et qui donc ont des suggestions pour vous. Aujourd'hui, avec moi en studio, Richard Sainte-Marie. Bonjour, Richard.
Bonjour.
Vous êtes vous-même auteur de romans. Vous écrivez surtout des romans... Vous écrivez plein de choses, hein, mais vous écrivez surtout des romans policiers. C'est ce qui a retenu mon attention.
Exact. Des romans policiers et des nouvelles policières aussi.
C'est quand votre dernière œuvre, Un ménage rouge?
Un ménage rouge qui est paru en mars 2013. Puis l'année d'avant, L'Inaveux en 2012.
Pourquoi le polar? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans?
On dit souvent, c'est le polar qui te choisit, c'est un peu ça. Ben, c'est parce que c'est les idées qui me viennent. Alors, au lieu de les combattre, les idées, je les écris. Et s'il me venait des histoires d'amour en tête, j'écrirais des histoires d'amour ou du fantastique, mais c'est pas ça qui vient.
Et le type de roman policier que vous écrivez, on parle d'un policier avec une tête un peu des romans noirs?
Oui, bien...
Je lisais les synopsis, les prémices de base sont intéressantes.
Oui, mais c'est plus psychologique encore que noir, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans la tête. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être intéressant, parce que j'ai choisi un livre qui parle de ce qui se passe dans la tête des tueurs. Et moi, ce qui se passe dans mes livres, c'est ce qui se passe dans la tête des tueurs et aussi du policier.
Du policier qui, lui, cherche à résoudre une énigme. Alors, on va commencer justement avec votre première suggestion.
Oui.
Ça s'appelle « Mes tueurs en série ». L'auteur s'appelle Nadia Fedzani, aux éditions de L'Homme, un bouquin qui est paru en 2011.
2011, c'est assez récent.
Qu'est-ce que ça raconte?
Nadia Fedzani, c'est une journaliste, donc c'est pas un roman, c'est un document. Elle a travaillé 4 ans sur ce livre-là. De 9h du matin à 11h du soir, elle a fait des lectures. Elle a communiqué avec 80 tueurs en série aux États-Unis, parce qu'au Canada, c'est interdit de communiquer avec les tueurs en série qui sont en prison. Donc, 80, elle a eu plusieurs réponses. 30 personnes ont répondu à son appel, 30 tueurs. Là-dessus, il y en a deux qui ont refusé de la rencontrer parce qu'elle voulait les rencontrer pour savoir ce qui se passe dans leur tête, justement, comment ils agissent, d'où c'est venu, etc.
Un tête-à-tête, les yeux dans les yeux, c'est ce qu'elle demandait.
Et puis sans menottes et sans gardien, là, on parle de personne à personne. D'ailleurs, ça a été un problème parce que les gardiens, quand elle a fait les visites, les gardiens ont dit « Non, on te laisse pas tout seul. Non, on te laisse pas la porte fermée. Non, on au moins laisse-nous regarder à travers la fenêtre parce que ces types-là sont toujours... dangereux. Mais il y en a 12 qui ont refusé parce qu'ils disaient que non, ils étaient innocents. Il y en a 19 qui ont accepté. En fin de compte, elle en a refusé quelques-uns de ces 19 parce qu'ils étaient trop fous, trop dangereux. Juste les lettres qu'elle recevait d'eux autres la faisaient friquer. Donc, elle a vu 8. Donc, à partir de 80, elle en a rencontré 8 en plusieurs heures dans leur prison. Condamnées à vie, même plusieurs, condamnées à plusieurs vies consécutives. Là, elle a vu... les faire raconter leur enfance, ce qu'ils ont vécu, comment les crimes sont arrivés et tout ça. Puis parallèlement, c'est-à-dire avant ça, pour se préparer pour ces interviews, parce que c'est une journaliste qui avait interviewé avant des sportifs, des grands chanteurs. Donc, c'est une femme de papier. Elle a donc préparé ses interviews avec des psychologues, des médecins, des criminologues, des policiers, des avocats, toutes sortes de gens absolument savants de partout aux États-Unis, au Canada et ici au Québec aussi. Elle, c'est une fille de Montréal. Donc, elle était extrêmement bien documentée.
Toute une démarche.
4 ans d'ouvrage.
Parlons un peu, parce que là, on parle du fond, mais juste une parenthèse sur le format. Qu'est-ce que c'est? On lit de grandes entrevues et les réponses de ces 8 tueurs en série?
On a un bref. Au début de chaque chapitre, il y a 8 qu'elle a rencontrés. Au début, un petit résumé de ce qu'ils ont fait. Puis après ça, un résumé de leur conversation, puis aussi de leurs lettres. Ils sont échangés des fois des centaines de lettres avant l'entrevue. Donc, elle a un bon portrait de ces gars-là.
Comme lecteur, qu'est-ce qui se passe quand on lit ce livre-là?
Ben, c'est passionnant, c'est un peu fréquent, c'est un peu épeurant parce que c'est la vérité. C'est la réalité.
Mais c'est pas de la fiction, là.
C'est pas de la fiction, je veux dire. C'est peut-être pas la vérité pure parce qu'ils ont un avantage. Ils sont beaucoup fabulateurs, ces gars-là.
Oui, mais c'est leur témoignage à eux, donc
c'est
ils
leur
peuvent
témoignage,
aussi contourner certains faits, là.
Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que vu que j'écris, et actuellement, le livre que je suis en train d'écrire, mon troisième roman policier, je suis en train de préparer préparer quelque chose où il y avait possibilité de tueur en série depuis l'enfance. Donc, il y a un personnage qui est enfant, à peu près à la moitié du livre. Donc, je voulais savoir des références sur les tueurs en série. Et ce livre-là est formidable parce qu'il est écrit pour tout le monde. C'est pas un livre de spécialiste. Il y a d'autres livres sur les tueurs en série qui sont écrits par des psychologues, des psychiatres, etc. Mais celui-là, il est plus pour tout le monde.
Et comme il y a 8 entrevues, est-ce qu'il y a un fil conducteur?
Oui. En fait, ce qui ressort de ça, c'est un peu des choses qu'on retrouve dans chaque tueur en série, mais pas obligatoirement. Ils ne les ont pas tous. Ils ne sont pas tous au même degré. C'est pas obligatoire non plus. Mais des choses rapidement. Les facteurs principaux, on vient pas au monde, tu vois, en série. On le devient parce que c'est surtout dans l'enfance puis dans l'adolescence. Une grande étude du FBI qu'elle cite qui dit que c'est le manque d'affection des parents, la négligence parentale, mais la négligence affective qui est dangereuse. Et il vient un moment dans la vie où il y a des espèces de colère qui se développent. Il y a, la gestion de la colère n'est pas là. C'est le milieu social aussi, dans une famille qui est déjà criminelle. On s'habitue à une espèce d'autre normalité qui est des fois la violence quotidienne, le vol, le viol. Comme elle dit elle-même, elle dit à un endroit, une petite fille de 6 ans qui commence à avoir des rapports sexuels avec son grand-père, ses oncles et ses frères, quand elle arrive à 16-17 ans, depuis 10 ans, elle a une espèce de fausse normalité. Puis elle prend ça pour la réalité. Ben, c'est sa réalité. Donc, elle ne sait pas que c'est pas comme ça dans d'autres familles. Et cette personne-là qui va se prostituer après, ben, c'est comme inévitable. Mais c'est la même chose pour des garçons qui sont dans des familles violentes, où il n'y a pas d'amour, pas d'affection, ou au contraire, ça c'est une des choses qui arrive souvent, hein, qui est dans les tueurs en série, elle a fait l'inventaire, beaucoup de problèmes d'agression sexuelle de la part de la mère. Un garçon qui fait l'amour avec sa mère à 12-13 ans, c'est pas normal. Et il y a beaucoup, pas tous, mais il y a plusieurs tueurs en série. Il y en a plus chez les tueurs en série en moyenne que dans la population normale. Des garçons qui vont faire pipi au lit jusqu'à 13-15 ans. D'habitude, c'est à peu près 4-5 ans. Là, ça peut aller jusqu'à 13-15 ans.
Signe de carence affective majeure. Là.
C'est exact. Puis il y en a aussi qui ont des abus sexuels. Donc, des enfants qui ont tué des animaux étant jeunes, ça, on voit ça dans tous les romans policiers, mais c'est vrai, c'est pas obligatoire d'avoir, mais il y a de la délinquance. Des enfants qui sont rejetés à l'école parce qu'ils sont différents. Souvent, ils sont sales. Souvent, ils sont mal éduqués. Sinon, ils sont sauvages. Souvent, ils sont sauvages. Donc, ils sont rejetés. Ils sont aussi enclins à avoir des problèmes aussi de manipulation. Ils sont des fois un peu maladroit. Il y en a plusieurs qui ont eu des accidents. Un plus grand nombre que dans la population normale, encore une fois, mais tout ça étant relatif, là, qui ont des blessures à la tête, surtout dans le lobe frontal, ce qui fait que les émotions sont complètement chamboulées. Donc, il y a une perte d'affect. Ça veut dire que la douleur des autres ne les atteint pas. Si on a tout ça, bien, aussi le double chromosome X ou double Y, ce qui est plus rare, mais ça existe aussi. Donc, les tueurs en série ont tous un petit peu de ça. Il y en a qui les ont tous.
Il n'y a pas de femmes dans les tueurs en série?
Non, il y en a très peu. Dans le livre, il n'y en a pas, mais dans la réalité aussi des tueurs en série, c'est même pas 10% des tueurs en série qui sont des femmes.
Alors, on apprend vraiment, on plonge dans l'univers des tueurs en série.
Exactement, on a le manuel pour en fabriquer un, hein? si on est écrivain.
Si vous êtes écrivain, alors ça s'appelle « Mes tueurs en série » de l'auteur Nadia Fedzani.
Puis
vous êtes
à la fin...
C'est pas une grosse brique, là, c'est quoi, 200 quelques pages?
À peu près
pages.
200 pages. Puis à la fin, rapidement, c'est intéressant parce qu'après les avoir rencontrés, elle donne une série de conseils aux personnes, conseils de survie aux tueurs en série qui sont donnés par les tueurs.
Bon, on souhaite à personne que ça arrive, bien sûr.
Ils disent, par exemple, « Le soir, ne vous coiffez pas les cheveux en queue de cheval par laquelle un inconnu peut vous agripper. » C'est simple, hein? « N'essayez jamais de raisonner un agresseur en lui parlant de Dieu. Cela pourrait le rendre furieux. » Parce que la présence de Dieu est souvent dans leur problème psychologique et tout ça. Bon. « Si vous devez vous défendre, frappez l'adversaire dans les parties génitales, si on le savait.
» Oui,
elle disait aussi une chose intéressante.
Je vous confirme que ça fonctionne.
Pour l'avoir
ça n'est pas arrivé, mais tu sais, dans les sports avec un ballon, là, oui.
Ils disent aussi, j'en ai plusieurs, mais un dernier. N'ayez pas peur de vous blesser en vous défendant parce que c'est un moindre mal. Le prédateur, ça vient de la bouche du prédateur, le prédateur s'attend à ce que vous figiez sur place puis que vous deveniez une victime instantanée. Alors, si vous vous débattez tout de suite, dans les premières secondes, ça se peut que ça le refroidisse. Il dit, si vous êtes attaqué, couchez-vous par terre et gigotez. Parce que c'est plus difficile de manipuler une femme qui est en train de se rouler par terre, de donner des coups de pied, qu'une femme qui est debout. Alors, ça se peut que dans les premières secondes, si vous vous jetez par terre puis vous n'avez pas peur de vous blesser, que l'agresseur s'en aille.
Et on tombe, on peut pas tomber, donc effectivement, c'est un bon réflexe. Donc, votre suggestion de lecture, votre première suggestion de lecture,
oui.
Mais votre deuxième suggestion de lecture, là, c'est un livre un peu plus volumineux, quoi, à peu près le double. Ça s'appelle « Le purgatoire des innocents ». Karine, comment on prononce son
nom? Gibel.
Gibel.
Faut allonger le J-E-B-E-L. Ça s'écrit J-I-E-B-E-L.
J-I-E-B-E-L chez Fleuve Noir, un bouquin qui a été publié en 2013. C'est tout chaud.
C'est tout récent. Je pense que c'est son 7e. Elle a gagné beaucoup de prix. C'est une Française. Elle a gagné le prix de Marseille plusieurs fois. Et c'est un livre qui est très dur. Et je l'ai rencontrée au printemps meurtrier de Knowlton. C'est comme ça que je l'ai connue. Parce qu'au Québec, elle n'est pas très connue. Elle commence. Je vois ses livres.
Elle vient d'où? C'est une Française?
C'est une Française, oui.
OK. Alors, qu'est-ce que ça raconte?
Bien, rapidement, c'est l'histoire d'un hold-up dans une bijouterie à Paris. Mais manque de bol, quand les bandits sortent de la bijouterie avec des millions de bijoux, il y a une voiture de police qui passe par là par hasard. Alors là, ça va mal. Et il y a un échange de coups de feu. Il y a un policier qui est tué, une passante, et un des bandits qui est blessé. Alors là, les voleurs prennent une voiture de fuite. Il y avait un plan pour aller dans une planque. Mais vu qu'il y a eu une fusillade et tout ça, ben le plan B, il est mis de côté. Il n'y a plus de plan B. Alors, ils aboutissent à la campagne. Ils finissent par trouver une maison où il y a une femme qui habite là seule, apparemment, une vétérinaire. Mais c'est la pire place qu'il aurait pu choisir. Parce que son mari est un policier qui est parti, mais qui va revenir. Alors, quand il va revenir, ça va aller mal.
Ça va mal se passer.
Et c'est ce qui est intéressant dans le livre pour moi, parce que vu que j'écris, c'est que tout le livre est écrit à l'indicatif présent. Tout était au présent. Et si on regarde, elle donne les heures, les jours et les heures, 16h30, 5h30.
Vous dites que c'est un livre qui est difficile à lire. Pourquoi?
Difficile à écrire parce que si on est au présent de l'indicatif, on est toujours dans l'action. C'est « je fais ceci, je vois ». C'est surtout un truc qui nous tient en haleine parce qu'on est toujours dans le présent, dans le présent, dans le présent. Si elle veut, par exemple, l'auteur raconter le passé, toujours à l'indicatif présent, c'est difficile. Elle est obligée d'inventer un stratagème. Comme entre les chapitres, mettons entre le chapitre 27 et 28, il y a un chapitre qui s'intercale ou qui n'a pas de numéro, qui a juste un nom, Will, le prénom d'un des personnages, 4 ans. Et la fonte a été changée un petit peu, juste assez pour qu'on s'aperçoive que c'est pas la même fonte.
C'est un flashback.
Et voilà. Alors, elle fait des flashbacks un peu partout qui nous racontent tout le passé des bandits. Et là, on comprend aussi pourquoi ils agissent maintenant, aujourd'hui. Mais le truc, c'est de pas l'avoir dit au passé, c'est de dire tout est au présent, mais il faut avoir un subterfuge. Et moi, ça m'intéresse parce qu'on parle souvent, mon ami Jean-Jacques Pelletier et moi, on discute souvent de ça, l'utilisation des temps. Nous, on parle au présent. Ça se peut que vous me disiez à la fin de l'interview, ce fut un plaisir de vous avoir, mais ça, le passé simple, je ne pense pas que vous l'utilisiez dans votre vie courante. On ne parle jamais au passé simple, c'est réservé au livre ou à la radio.
Tout à fait. Le temps de verbe utilisé a un impact sur le lecteur.
Exactement.
Dans ce cas-ci, c'est écrit au présent, ça nous garde en haleine, c'est ce que je comprends de ce que vous me dites.
Oui, parce que l'histoire, c'est surtout la façon de la raconter qui est efficace.
Ça s'appelle « Purgatoire des innocents ». L'auteur Karine Gibel, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce,
Gibel.
Effectivement, chez Fleuve Noir, c'est paru en 2013. Et on va terminer avec vous, vos œuvres, Richard Sainte-Marie. Vous nous disiez d'entrée de jeu que vous faites des polars un peu noirs qui nous gardent eux aussi en haleine. Alors, on va faire tirer deux de vos livres, « L'inaveu » et « Un ménage rouge ». Vous pouvez nous appeler donc pour gagner un de ces livres. Hein. Ça va être un par personne quand même. Au 670-9071. Encore une fois, pour avoir droit à l'un de ses livres de l'auteur Richard Sainte-Marie qui est avec nous en studio. 670-9071. On attend vos appels. Et vous, Richard Sainte-Marie, on vous remercie de vos suggestions, de vos analyses. C'était passionnant. Merci beaucoup.
Merci.